à Washington.
Et Kabadour avec vous en direct de Washington pour le Monde aujourd'hui, édition de 17h30. Bonsoir à tous, voici les titres. En République démocratique du Congo, incendie d'un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa, emportant près de 80% du matériel électoral. Au Togo, les élections législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre prochain, a affirmé le ministre de la fonction publique. Au Mali, plusieurs dizaines de civils Touaregs tués par des djihadistes présumés dans le nord-est du pays. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a dévoilé sa stratégie africaine. Ne manquez pas dans 10 minutes l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Un incendie s'est déclaré jeudi dans l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Selon le président de la CENI, Corneille Nanga, le matériel électoral destiné à 19 des 24 communes de Kinshasa est parti en fumée. Une enquête a été ouverte pour identifier l'origine de cet incendie. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
8000 machines sur les 10368 prévues pour Kinshasa, 3774 isoloirs, 552 kits bureautiques, 800 nouvelles motos et 15 véhicules font partie du lot de matériel emporté par l'incendie qui, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est déclaré jeudi aux environs de 2h du matin. En attendant les résultats des enquêtes ouvertes par des services compétents, Corneille Nanga rassure que des dispositions utiles sont prises afin de garantir la poursuite normale du processus électoral. En d'autres termes, le report des élections n'est pas à l'ordre du jour. Parmi les réactions enregistrées, le Front commun pour le Congo se dit choqué par cet incendie qu'il qualifie de criminel et accuse indirectement le candidat président de la République, Martin Fayulu, d'en être moralement responsable pour avoir invité ses militants lors de ces meetings à saccager le matériel électoral. Accusation que rejette Martin Fayulu, qui accuse à son tour le régime de Kabila de vouloir, à travers cet incendie, justifier le report des élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce jeudi le renouvellement pour un an de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, sans changement sur ses effectifs. Ce délai avait permis aux Américains d'obtenir l'autorisation du Congrès à Washington pour confier de nouvelles tâches au casque bleu. Les Russes en ont profité pour renégocier les termes de la résolution qui reconnaît maintenant en partie leur rôle dans la mission de stabilisation en cours en République centrafricaine. Audience à huis clos ce jeudi à La Haye pour débattre de la détention de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Dégoudé, ancien leader des Jeunes Patriotes. La Chambre d'instruction de la Cour pénale internationale veut évaluer les risques que présenterait une éventuelle remise en liberté provisoire de ces deux responsables politiques ivoiriens. Laurent Gbagbo est en détention depuis 2011 et Charles Dégoudé depuis 2014. Les élections législatives au Togo se tiendront bel et bien le 20 décembre prochain, affirmé le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara, malgré la crise politique et les appels de l'opposition à reporter le scrutin. Nathalie Barge.
Le processus électoral est irréversible, a déclaré le porte-parole du gouvernement hier soir, précisant que les missions d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine seront déployées cette semaine. Gilbert Bawara a déploré les violences lors des manifestations samedi et lundi dans le pays qui ont fait 4 morts selon le gouvernement, tandis que l'opposition parle de 6 décès. Une enquête est annoncée. M. Bawara a par ailleurs accusé certains leaders politiques d'inciter la population à agresser et attaquer les forces de l'ordre. L'opposition qui boycotte ces législatives a appelé à manifester du 8 au 18 décembre pour exiger l'arrêt du processus électoral. Ces manifestations ont été interdites alors que la campagne a débuté le 4 décembre. Dans un communiqué conjoint ce jeudi, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Allemagne affirment suivre avec préoccupation les derniers développements de la situation au Togo et soulignent la nécessité d'éviter toute forme de violence.
Au Nigeria, Atuku Abubakar, candidat du Parti démocratique du peuple, principal parti d'opposition à la présidentielle, ne s'était pas joint mardi à l'engagement pris à Abuja par le président Buhari et des dizaines d'autres candidats pour faire en sorte que les élections générales du 16 février prochain soient pacifiques et crédibles. J'ai apposé ma signature à l'accord de paix. Monsieur Abubakar s'est exprimé sur son compte Twitter mercredi soir. Son parti parle d'une absence due à un défaut de communication. Au Mali, dans la région de Menaka, 142 civils ont trouvé la mort suite à une attaque attribuée au groupe terroriste. Les djihadistes qui sévissent dans cette partie du territoire malien ont fait des exécutions sommaires, brûlé des campements avec des enfants et des personnes âgées. La communauté Idagzaak est la seule visée par cette attaque, selon un communiqué. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
C'est dans la nuit du 11 décembre 2018 que des bandits armés sur une vingtaine de motos ont fait irruption dans plusieurs localités du sud de la région de Menaka et ont exécuté des civils de la communauté Idagzaak. C'était entre l'ouest de la localité de Tinawab à 20 km de Menaka. Selon les responsables des groupes armés du MSA, 42 civils ont été exécutés dans leur campement, parmi lesquels il y a des enfants de moins de 8 ans. Les assaillants après leur forfait, sont répartis vers la frontière nigérienne après avoir allumé un feu de brousse. Le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA a rapidement dépêché des troupes sur place pour faire le constat et venir en aide aux victimes. C'est ainsi que trois blessés et des rescapés ont pu être acheminés à Menaka. Des troupes des forces armées du Mali et de certains mouvements signataires ont aussi rejoint les lieux des massacres. Ces troupes ont aidé à contenir le feu de brousse. Le gouverneur de la région de Menaka, Daouda Maïga, condamne avec la grande fermeté ces crimes abominables et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La force anti-djihadiste du G5 Sahel va reprendre ses opérations dès le début de l'année prochaine, voire avant, a estimé aujourd'hui le chef d'état-major des armées françaises, général François Lecointre. Les groupes djihadistes en grande partie chassés du nord du Mali ont depuis regagné du terrain, en particulier dans le centre du pays, et le phénomène s'étend au Burkina Faso et au Niger. Voisins se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Au Niger, colère des réfugiés soudanais pris en charge par le Haut Commissariat des réfugiés. Ils sont depuis mardi en sit-in devant les locaux de l'organisme onusien pour exiger des explications sur leur situation. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. Le président érythréen Isaias Afewerki s'est rendu à Mogadiscio ce jeudi. Une première depuis son entrée en fonction en 1993. Il a rencontré son homologue somalien Mohamed Abdouli Mohamed et intensifier le réchauffement des relations entre ces deux pays de la Corne de l'Afrique. Somalie et Érythrée entretenaient depuis plus d'une décennie des relations tendues, en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la perte du gouvernement somalien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump dévoile la stratégie américaine en Afrique. Dans un discours ce jeudi à Washington, John Bolton a annoncé une série de mesures pour contrer la Chine et la Russie sur le continent. Abdourahmane Dia.
Le conseiller du président américain s'en est pris à la Chine qui a intensifié sa présence économique et militaire en Afrique. John Bolton accuse Pékin de pratiques prédatrices qui freinent la croissance économique et l'indépendance du continent. Il accuse Pékin de favoriser la corruption et de tenir en otage les pays africains à travers ses prêts. Pour M. Bolton, la présence de plus en plus marquée de la Chine et de la Russie constitue une réelle menace aux intérêts sécuritaires des États-Unis. « Nous ne sommes pas de ces États qui promeuvent la dépendance économique », a-t-il dit. Il ajoute que l'aide américaine fera progresser les intérêts des États-Unis et aidera les pays africains à devenir autonomes. Alors que le département de la Défense a annoncé une réduction de la présence militaire américaine en Afrique, John Bolton a estimé que la stratégie gagnante pour Washington se trouve dans un partenariat qui favorise le développement économique en Afrique et crée des emplois ici aux États-Unis.
Donald Trump a riposté aux accusations du procureur spécial en affirmant dans une série de tweets n'avoir jamais demandé à son ex-avocat Michael Cohen d'enfreindre la loi. Un tribunal fédéral de New York a condamné mercredi l'ancien avocat et homme de confiance du président américain à 3 ans de prison. Le Parlement britannique se prononcera sur l'accord du Brexit conclu par Theresa May avec l'Union européenne entre le 7 et 21 janvier 2019, après le report du vote qui était prévu cette semaine, a annoncé le gouvernement. La première ministre britannique a échappé hier à une motion de censure au Parlement. Le mouvement des Gilets jaunes en France, qui dure depuis plusieurs semaines, a inspiré divers mouvements en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Pologne. En Serbie, un député de l'opposition a revêtu un gilet jaune au Parlement pour protester contre les prix de l'essence. Des photos de jeunes gens en gilet gilets jaunes dans une boîte de nuit sénégalaise sont devenues virales en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, quelques gilets jaunes ont fait leur apparition lors de manifestations quotidiennes contre la mauvaise qualité des services publics. Au Proche-Orient, le Liban devrait se doter d'un gouvernement d'ici la fin de l'année, a déclaré le Premier ministre Saad Hariri, après 6 mois de blocage et de négociations ardues sur fond de division entre différents blocs politiques sur la composition du nouveau cabinet. À la mi-novembre, M. Hariri avait accusé son grand rival politique, le mouvement chiite du Hezbollah, d'entraver la formation d'une nouvelle équipe ministérielle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Nigeria engage un procès contre Shell et Eni pour un montant de 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un accord sur un champ pétrolier signé en 2011. Selon l'accusation, les sommes d'argent prétendument versées au Nigeria l'ont été sur le compte d'une société contrôlée par Dan Etete, ancien ministre nigérian du pétrole et utilisé pour des pots de vin. La Côte d'Ivoire annonce l'ouverture de 2 nouvelles lignes directes, Abidjan-Washington et Abidjan-Montréal. Le but est d'accroître l'apport des transports dans son PIB, qui se situe entre 7% et 12%. La future ligne Abidjan-Washington sera la 2e liaison aérienne directe avec les États-Unis, après l'ouverture, il y a quelques mois, de la 1e liaison reliant Abidjan et New York, effectuée par la compagnie Ethiopian Airlines. Enfin, la Guinée va recevoir 500 millions d'euros de l'Agence africaine de développement pour soutenir jusqu'en 2020 la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ces fonds devraient être investis dans plusieurs secteurs clés comme l'éducation, l'agriculture, la décentralisation, l'énergie et l'eau. Le financement devrait aussi prendre en compte les programmes de développement communautaire ainsi que l'amélioration de la mobilisation des ressources internes à travers le renforcement des capacités techniques.
Place à présent notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
L'Égypte prête à sauver la CAF.
L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fier de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. On a des structures au plus haut niveau et on a déjà organisé des compétitions, a déclaré Ashraf Sobhi, ministre égyptien des sports. Soucieux de ne pas faire de l'ombre au Maroc, le pays de Mohamed Salah avait déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas candidat pour accueillir le tournoi à la place du Cameroun. Mais finalement, le Maroc a annoncé hier qu'il ne se portera pas candidat. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Les prétendants ont jusqu'à demain minuit pour déposer leur dossier de candidature.
Alain Giresse, nouveau sélectionneur de la Tunisie.
Oui, 2 mois après le départ de Faouzi Benzati, la Fédération tunisienne de football a annoncé le recrutement du technicien français qui s'est engagé jusqu'en 2020. Sans contrat depuis plus d'un an, l'ancien sélectionneur du Gabon reprend ici du service. La dernière fois qu'on l'a vu sur un banc, c'était avec le Mali en septembre 2017. Au sortir d'un match nul face au Maroc, il a jeté l'éponge. Passé aussi par le Sénégal, Alain Giresse va tenter d'apporter une stabilité sur le banc des Aigles de Carthage, qualifié pour la CAN 2019.
L'Espérance Tunis connaît son adversaire au Mondial des clubs.
Et oui, samedi, le champion d'Afrique en titre entrera en lice en quart de finale face au club émirati d'Al Ain. Le représentant du pays hôte, les Émirats Arabes Unis, a validé son billet en écartant Wellington au tir au but lors du premier tour. Pourtant mené 3-0 à la mi-temps, les locaux ont complètement renversé la vapeur grâce notamment à un but du Malien Tongo Doumbia. Le club tunisien est donc prévenu.
Le Sénégal rejoint l'Égypte à la finale de la CAN de football de plage.
Tenant du titre, les Lions de la Teranga ont tenu leur rang en écartant le Maroc 7-2 en demi-finale à Sharm el-Cheikh. Le Sénégal fait ainsi coup double car il valide du même coup son billet pour le mondial de la discipline. Demain en finale, les Sénégalais retrouveront le Nigeria qu'ils avaient battu au même niveau il y a 2 ans.
Europa League ce soir.
Séville et l'AC Milan sont en ballottage favorable pour se qualifier pour les 16e de finale s'ils terminent le travail respectivement face à Krasnodar et l'Olympiakos. A contrario, les Grecs devront battre Milan par au moins 2 buts d'écart pour se qualifier. Dans le groupe B, le dernier ticket en jeu se jouera entre le Celtic et Leipzig. Le club écossais sera qualifié en cas de victoire ou de nul contre Salzbourg.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour, et on commence par les États-Unis qui vont accroître leur investissement en Afrique pour contrecarrer les offensives chinoises et russes. C'est ce que déclare John Bolton, qui était l'invité du groupe de réflexion Heritage Foundation, pour discuter de la stratégie africaine de l'administration Trump. Compte rendu, Abdourahmane Dia.
Washington n'entend pas laisser le champ libre à Moscou et à Pékin qui mènent des offensives en Afrique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale.
Nos grands rivaux que sont la Chine et la Russie développent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Ils investissent délibérément et de façon agressive pour devancer les États-Unis sur le continent. Entre 2016 et 2017, l'investissement direct chinois a atteint 6,4 milliards de dollars.
La Chine en a pris pour son grade. John Bolton l'accuse de favoriser la corruption en Afrique en facilitant des prêts à des pays qui ne respectent pas les normes démocratiques et les droits humains, qualifiant de prédatrices ces pratiques qui créent une relation de dépendance économique entre Pékin et le continent.
China uses bribes.
La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et utilise la dette pour tenir les États africains dépendants des demandes et de la volonté de Pékin. Ces investissements vont avec la corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les États-Unis.
John Bolton donne l'exemple de la Zambie qui doit 6 à 10 milliards de dollars à la Chine. Conséquence, Pékin pourrait prendre le contrôle de la compagnie nationale d'électricité pour rentrer dans ses fonds. En contraste, Washington propose un partenariat gagnant-gagnant qui favorise les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et le développement de l'Afrique. Mais John Bolton insiste sur le bon usage de l'argent du contribuable américain.
Désormais, nous n'allons plus tolérer cette pratique de l'aide de longue durée sans résultat. Il n'y a pas d'assistance sans responsabilité ni d'aide sans réforme.
John Bolton a été plus clair sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Selon lui, l'administration américaine ne va plus permettre que les impôts durement payés par les Américains servent à aider des autocrates corrompus à remplir leurs coffres aux dépens de leur population ou pour commettre de graves violations des droits de l'homme. John Bolton a annoncé la mise en place d'une politique dite « Afrique prospère » qui met l'accent sur l'investissement, la croissance économique et une amélioration de l'environnement des affaires sur le continent. Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, dans votre émission À votre avis. Ce jeudi 13 décembre 2018 marque le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Il est devenu le symbole du journalisme d'investigation en Afrique et de la recherche de la vérité. Comment voyez-vous le travail de la presse dans votre pays? La liberté de presse est-elle une réalité? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
Campagne électorale en République démocratique du Congo, encore des morts parmi les soutiens du candidat de l'opposition Martin Fayulu. Une personne a été tuée à son arrivée à Kalemi, 3 selon l'équipe de campagne du candidat de la coalition Lamuka. Martin Fayulu, qui évoque également les deux personnes tuées la veille à son arrivée à Lubumbashi, appelle au calme et promet saisir la justice et l'ONU. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les trois candidats favoris à la présidentielle du 23 décembre 2018 ont multiplié des accusations d'intolérance politique les uns envers les autres. Félix Tshisekedi, qui n'a pas pu se rendre mercredi à Butembo pour tenir son meeting, accuse la coalition Lamuka de Martin Fayulu d'avoir planifié la perturbation de cette activité.
Nous avions déjà commencé à nous diriger sur la route de Butembo et le contingent de police, à un moment, nous a fait signe qu'il allait s'arrêter là. Et ils nous ont fortement déconseillé de partir seul, sans protection, d'autant plus que les perturbateurs de Lamuka ont des relais dans les Maïmaï et qu'ils vont sûrement donner des coups de fil pour qu'on nous coupe la route à nos amis de Lamuka. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent à nous, alors que nous sommes censés avoir un adversaire commun qui est le pouvoir. D'un côté, ils jouent aux victimes au Katanga, mais de l'autre, ce sont eux les bourreaux.
Faux, réplique Pierre Lumbi. Le directeur de campagne de Martin Fayulu évoque notamment la situation vécue par son candidat à Lubumbashi et Hakalemi pour affirmer que c'est bien sa coalition qui est victime d'intolérance politique.
C'est nous qui sommes victimes et c'est nous qu'on accuse. Aujourd'hui, ce n'est pas les militants de l'IDPS qui sont morts. C'est la population encadrée par la Mouka. Je pense qu'il se trompe d'ennemi. J'ai lancé un appel pour que la population ne cède pas à la violence, à la provocation. Nous sommes des non-violents et nous les resterons. Nous condamnons les groupes armés. Et s'il y a des gens qui ont empêché Cash de faire ses meetings, nous les condamnons publiquement et nous attendons qu'ils condamnent ce qui s'est passé à Kalemie, à Lubumbashi.
Accusé d'utiliser l'appareil de l'État pour favoriser son candidat au détriment d'autres, le Front commun pour le Congo s'en défend à son tour et accuse les partisans de Martin Fayulu de déchirer les affiches de son candidat Ramazani Shadary et de ses candidats députés nationaux. Félix Kabange Numbi est membre du comité stratégique du FCC.
Le FCC, en tant que coalition politique, nous nous occupons des affaires politiques. Nous ne pouvons pas ici dire qu'on a autorisé à qui que ce soit de tirer sur quelqu'un. Si jamais il y a eu un policier qui aurait tiré, je pense que les services sont là. Les coupables seront traduits en justice. Mais nous, ce que nous disons, c'est justement cette succession de provocations. Ils veulent à tout prix qu'il y ait des incidents.
Dans un communiqué rendu public à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, a déploré les pertes en vies humaines et demandé aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Les Kinois interrogés par VOA Afrique déplorent pour leur part le fait que la violence et l'intolérance aient pris le dessus sur le débat d'idées censé caractériser cette période de campagne électorale.
C'est très regrettable. Hein? Nous avions besoin de programmes de chaque candidat. C'est ce qui peut donner l'occasion à un électeur de choisir un candidat. Non les attaques, non la violence.
C'est vraiment déplorable parce que nous sommes à la troisième expérience des élections dans notre pays. On ne devait pas assister à des problèmes comme ça. Je fais appel à toute la population congolaise d'être trop vigilante. Il ne faut pas suivre les incitations au tribalisme surtout.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Dans Washington Forum, coup de projecteur sur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dénoncer le viol comme arme de guerre, tel est le combat qu'il a décidé de mener. En République démocratique du Congo, ce gynécologue a consacré sa carrière aux femmes et filles victimes de violences sexuelles. Comment est-il devenu une référence de la lutte contre la barbarie? Comment punir les auteurs de ces actes? À la star du docteur Mukwege, comment accompagner les victimes de sa communauté sur le chemin de la guérison physique et psychologique? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Tension entre le Burundi et le Rwanda. La semaine dernière, le président Pierre Nkurunziza a accusé le Rwanda de former des jeunes réfugiés pour attaquer le Burundi. Il a même parlé de guerre ouverte entre les deux pays et a appelé à la tenue d'un sommet régional pour discuter de cette crise. Placide Magambo a recueilli la réaction du secrétaire chargé de la coopération au ministère des Affaires étrangères à Kigali.
La question qui se pose n'est pas une question des relations entre le Rwanda et le Burundi, c'est une question interne au Burundi qui doit être réglée par les Burundais eux-mêmes avec le soutien du médiateur, du facilitateur de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc nous disons que toute diversion de la part du Burundi n'a lieu d'être. Donc nous, on soutient les efforts de la région pour la résolution, enfin pour le dialogue inter-burundais, la résolution pacifique de la situation burundi. Et nous ne pensons pas que ce pays doive nous embarquer dans une diversion qui n'a pas lieu d'être.
Le président de la communauté des pays de l'Afrique et de l'Est, Yoweri Museveni, a répondu à la lettre adressée par le président burundais exigeant un sommet régional sur le conflit ouvert avec son ennemi rwandais. Qu'en dites-vous?
Le Rwanda est un des pays partenaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc nous soutenons le médiateur et le facilitateur dans leurs tâches. Et nous accepterons toute bien recommandation pour qu'une solution soit trouvée à la situation burundaise.
Olivier Nkurunziza, secrétaire chargé de la coopération au ministère des Affaires étrangères à Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Niger, colère des réfugiés soudanais pris en charge par le HCR. Ils sont depuis mardi en sitting devant les locaux de l'organisme onusien pour exiger des explications sur leur situation, notamment le séjour qui se prolonge indéfiniment selon eux. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Ils sont une centaine en majorité des Soudanais qui font le pied de grue à la devanture de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Niamey depuis mardi dernier. Tous veulent être fixés sur leur situation. Younoussa Ibrahim est leur porte-parole.
Hasser Agdes, il m'a fait l'interview, puis il m'a amené ici pour me trouver la solution que j'allais chercher. D'abord, je suis jusqu'à venir ici, moi, je fais un an. Ça n'a aucune solution. Hier, le représentant du HCR, Mme Alexander, visitait à nous. Il a dit, nous, par rapport aux Soudanais, on a parlé de migration dans le prairie de Niger. Okay, si on veut accepter de rester ici, manger et travailler, ça c'est nous droit. Si ce n'est pas ça, chacun décide pour quitter le Niger tout seul. Ce n'est pas par rapport à l'auteur ou bien de son responsabilité.
Ce qu'ils demandent, c'est donc que le HCR les achemine comme les Érythréens ou les Éthiopiens, par exemple, en Europe. Mais la représentante du HCR au Niger leur réplique, ils n'ont pas le même statut. Alexandra Morelli.
Il y a un projet de l'ETM qui est lié à un accord que l'OHCR a fait avec le gouvernement du Niger d'évacuation directement des centres de détention de la Libye vers le Niger en transit. Et donc ces gens vont dans des pays tiers. Pour les Soudanais, ce projet de réinstallation n'est pas encore prévu. La plupart de ces Soudanais viennent du Tchad. Ils ont été déjà reconnus comme réfugiés là-bas. Techniquement, c'est le Tchad qui les protège. Logiquement, c'est au Tchad qu'on fait la réinstallation. Malgré les efforts à leur dire qu'il faut avoir patience, qu'ils sont quand même dans un pays qui les a accueillis, ils sont dans un pays qui les nourrit, ils sont dans un pays qui leur a donné un toit, ils sont en train de vivre un moment de frustration. On les comprend, on les écoute et on gère.
Mercredi soir encore, un groupe de ces jeunes Soudanais était visible devant les locaux de la représentation du HCR à Niamey. Le Niger compte près de 200 000 personnes réfugiées sur son territoire du fait des conflits dans deux de ses voisins, à savoir le Nigeria et le Mali. Un nombre important de migrants et de personnes refoulées du fait de la situation en Libye séjournent également sur le territoire nigérien pris en charge par les organismes spécialisés des Nations Unies. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, Thomas Blondet était à la console et Kabadou vous a présenté ce journal. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste en contact avec la page Facebook VOA Afrique et le site VOA Afrique pour une actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.